pour faciliter un peu plus la vie des familles.
Merci à RFI pour ce journal. Midi 10 à Bordeaux, vous écoutez Le Plat de Résistance sur la Clé des Ondes. Avant tout, quelques informations complémentaires. En Nouvelle-Aquitaine, 6 candidats du centre et de droite ne se sont pas désistés face à l'extrême droite, malgré des triangulaires dans certaines circonscriptions pour le second tour des législatives. Ils prennent ainsi le risque de favoriser une victoire du Rassemblement national. C'est le cas notamment en Corrèze, où Francis Dubois, républicain, a refusé de se retirer alors qu'il est arrivé en troisième position derrière le Front populaire et le RN. C'est également le cas en Charente, où Thomas Mesnier a décidé de ne pas se désister, au motif qu'il disposerait selon lui de plus de réserves de voix. Des désistements qui résistent, dus à la politique du ni le RN ni LFI de certains de la majorité présidentielle, notamment Édouard Philippe et Bruno Le Maire. Jordan Bardella a-t-il peur d'une femme ? Titre le collectif féministe Nous Toutes dans un post Instagram. Et la réponse est oui. Le candidat du RN devait débattre hier avec la chef des écologistes Marine Tondelier sur BFM TV. Jordan Bardella a décliné et il a à la place proposé un débat avec Jean-Luc Mélenchon, ce que les candidats Nouveau Front Populaire ont refusé, ne voulant pas céder aux pressions. Alors pourquoi ce refus, selon le collectif Nous Toutes ? Car il risque gros. Marine Tondelier sait à quel point les femmes seraient les premières victimes du RN. De plus, Marine Tondelier est une experte du RN. Cela fait 10 ans qu'elle est élue d'opposition dans un fief d'extrême droite à Hénin-Beaumont. En réponse, 230 femmes de tous horizons ont signé une tribune mercredi 2 juillet dans Libération pour demander à BFM TV de ne pas invisibiliser et silencer les femmes en politique. Et finalement, le débat sur BFM TV qui a eu lieu hier, enfin qui n'était pas un débat, c'était une succession du coup de Jordan Bardella, Marine Tondelier et Gabriel Attal qui se sont succédés dans des interviews individuelles à l'antenne. Le Monde vient de publier hier une enquête vidéo intitulée « Enquête sur Cyril Hanouna et ses dérapages ». Pour cette enquête, l'équipe du Monde a analysé la totalité de l'émission « On marche sur la tête » sur Europe 1 de Cyril Hanouna, chroniqueur de divertissement pour l'émission TPMP sur C8. Il anime depuis peu une émission politique sur les législatives. Le Monde a fait un décompte du temps de parole à l'antenne. Et l'analyse du Monde montre comment ce qui est présenté comme une émission de débat et de décryptage s'est transformé en émission de propagande politique en pleine période électorale. Cyril Hanouna représente à lui seul plus d'un tiers du temps de parole, dont 30 minutes à critiquer le Nouveau Front Populaire contre 0 minute pour le Rassemblement National. Sur l'ensemble des 10 jours de diffusion, la gauche a bénéficié d'un temps de parole de 27 minutes contre presque 2 heures pour l'extrême droite. De plus, des dizaines de minutes d'antenne ont été supprimées des replays. Selon un cabinet de conseil juridique, plusieurs extraits exposent Europe 1 et Cyril Hanouna à des poursuites judiciaires sur la base de la diffamation et de la présomption d'innocence. Et le 19 juin, l'ARCOM, organisme de régulation des médias, a rappelé à Europe 1 de traiter avec mesure et honnêteté l'actualité électorale et d'assurer une pluralité de points de vue. Le Parti Socialiste, dans un post Instagram datant du 22 juin, questionne « À quoi ressemblerait un gouvernement Rassemblement National ?» Eh bien, selon le PS, il pourrait être constitué de Sébastien Chenu, comme ministre de l'Intérieur. Il est pour l'interdiction de la binationalité. Il a notamment déclaré « On ne peut pas être français pour certaines choses et uruguayen pour d'autres ». Au ministère de l'Intérieur, Julien Oudoul, qui est pour laisser mourir les migrants et migrantes qui arrivent en Europe. Au ministère de la Mer et des Océans, Fabrice Leggeri, qui est notamment poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité et torture. Alors cette composition ministérielle, elle n'existe pas, elle est fictionnelle, et le PS l'a mise en avant pour mettre en garde sur la dangerosité de l'extrême droite, mais elle pourrait peut-être voir le jour. C'est d'ailleurs ce qu'anticipent Inès, Bilal, Anissa, Cyrine et Sarah, des binationaux ou descendants d'immigrés qui préparent leur départ. Interrogé par Street Press, il n'imagine pas vivre dans un pays gouverné par le Rassemblement National. L'UDEN s'exprime et lance « 10 millions de mes concitoyens m'envoient le message en pleine face que je ne suis pas assez française pour eux ». Face à cette violence, la résistance s'organise et ne fléchit pas. Hier à Paris, place de la République, plus de 30 000 personnes étaient rassemblées contre l'extrême droite. À Bordeaux, une manifestation contre le racisme et contre l'extrême droite aura lieu demain, vendredi. Elle est appelée par des syndicats, la FSU, Solidaire, le syndicat lycéen FIDL et des associations comme SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, Attaque, le Planning familial et l'AG Féministe. Rendez-vous demain à 18h30, place de la Victoire. Et enfin, on parlait mardi dans cette émission de la grève à la clinique d'Arcachon. Les personnels annoncent reprendre le travail aujourd'hui après une victoire de taille, l'obtention de 150 euros brut de prime mensuelle. Une belle victoire pour elles et eux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Maison des Femmes de Bordeaux, un lieu de soutien et de solidarité pour de nombreuses femmes. On parlera des parcours de différentes femmes et de l'importance du rôle crucial du travail associatif dans leur vie. On parlera également d'un projet intitulé « Femmes d'ici et d'ailleurs », 9 portraits de femmes d'ici et d'ailleurs qui ont été diffusés sur la Clé des Ondes durant 2 semaines et qui sont à réécouter en podcast sur notre site. Un projet qui donne la parole aux femmes, qui passe par la Maison des Femmes. On abordera également l'actualité politique et la percée inquiétante de l'extrême droite en France. Nous discuterons des répercussions de cette situation sur les personnes immigrées et sur les associations qui les soutiennent. Pour en parler aujourd'hui, on est avec Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Tu es salariée à la Maison des Femmes.
Oui.
Et Hope, bonjour Hope.
Bonjour.
Toi, tu es passée par la Maison des Femmes.
Oui.
Alors, d'abord, est-ce que je peux te laisser te présenter, Hope ?
Oui, je m'appelle Hope. Ça fait plus d'un an que je participe aux activités de la Maison des Femmes. Je suis arrivée en France en tant qu'étudiante et je fais un master 1.
Un master en ?
En pratique artistique et action sociale.
Merci. Alors Isabelle, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la Maison des Femmes ? Qu'est-ce que c'est que ce lieu ?
Alors la Maison des Femmes, elle existe depuis plus de 20 ans. C'est un lieu associatif qui a été créé par des femmes féministes. C'était un lieu pour que les femmes se retrouvent, discutent, etc. Et ça s'est professionnalisé. Donc on a aujourd'hui une grosse partie d'accueil pour les femmes victimes de violences sexuelles et conjugales. Et l'autre partie sur tout ce qui est accompagnement social. Pour toutes les femmes. C'est un accueil inconditionnel pour toutes les femmes. Elles arrivent de partout. Et elles viennent. On doit pouvoir mieux les orienter, les écouter. C'est avant tout aussi un lieu d'écoute.
Et donc, toi, Hope, tu te rends à la Maison des Femmes. Qu'est-ce que c'est la Maison des Femmes pour toi ?
La Maison des Femmes, pour moi, c'est pour se retrouver avec les autres, pour me faire guider. Et aussi, j'ai fait mon stage là-bas. Et ça m'a beaucoup aidée. J'ai rencontré des femmes qui sont dans le même cas que moi et ça m'a permis de savoir que je ne suis pas toute seule.
Donc la Maison des Femmes, ça a la particularité d'être un lieu en non-mixité, comme il en existe peu à Bordeaux. Pourquoi ce choix de la non-mixité, Isabelle ?
Alors, c'est les camarades, si on peut dire, qui ont créé cette Maison des Femmes, un lieu non mixte, parce que les femmes s'expriment mieux, bien sûr, quand elles sont entre elles. C'est un lieu plus sécure pour elles, puisque les femmes, souvent, quand elles viennent, et surtout pour toutes les femmes qui sont victimes de violences, elles arrivent dans un lieu où elles savent qu'elles n'auront pas à rencontrer des hommes. Et les femmes se libèrent, la parole se libère beaucoup plus facilement, quand même, entre femmes.
Et toi, Hope, est-ce que c'est quelque chose de particulier aussi, le fait qu'il n'y ait que des femmes ?
Oui, ça m'a rassurée parce que la cause des femmes, ça me tient beaucoup à cœur. Et d'où je viens, les femmes n'ont pas beaucoup de paroles. Et c'est une occasion pour moi d'apprendre plus et de me déployer.
Et le fait d'être entourée que de femmes, tu disais que tu rencontrais aussi certaines femmes qui étaient dans ta situation, c'est un soutien aussi pour toi ?
Oui, ça me soutient beaucoup.
Donc il y a des ateliers également qui sont organisés à la Maison des Femmes, Isabelle. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ces ateliers ?
Nous, sur notre partie, on est 2 salariés sur tout ce qu'on appelle accompagnement social, donc il y a Marion et moi. Et donc on organise des ateliers en fonction du désir des femmes, aussi des opportunités. Par exemple, Hope, qui est ici, nous a fait un atelier crochet parce que dans son pays d'origine, elle faisait beaucoup de crochet. Et elle a fait un atelier crochet, c'est un exemple. Mais donc du coup, on essaye de faire des ateliers les vendredis, 1 à 2 fois par mois. C'est plutôt un prétexte aussi de lien, mais aussi de faire des choses qui les évadent. Elles ont besoin de se détendre, donc ça passe du loisir à la culture, C'est très variable, ça peut être du jardinage, mais ça peut être aussi un arpentage, lire un livre à plusieurs, des choses manuelles, c'est très varié, c'est en fonction aussi de elles, ce qu'elles peuvent proposer, les femmes qui viennent, voilà.
Et donc, pour parler un petit peu de l'évolution de la Maison des Femmes, de tout le travail aussi que vous faites, comment est-ce que ça a évolué un petit peu, vous, votre travail dans ce secteur associatif, de quels moyens vous disposez et de quoi est-ce que vous auriez besoin aussi peut-être ?
Ben, les moyens, on est donc du coup, nous, financés par les institutions, hein, donc département, mairie, État. Et les moyens que nous aurions besoin, ben, c'est surtout qu'on puisse continuer à travailler avec des salariés. On est 4 salariés, donc il y a eu une augmentation d'une masse salariale qui était vraiment nécessaire d'ailleurs, parce que nous avons beaucoup d'accueils. Les accueils ont augmenté, hein, autant sur les violences que sur l'accompagnement social. Nous avons il y a 2 salariés à 35 heures et 2 salariés à 30 heures. Enfin, voilà. Et du coup, ce qu'on aurait besoin surtout, c'est qu'on puisse continuer à travailler, qu'on puisse continuer bien sûr à rémunérer les salariés et qu'on puisse avoir toujours un local comme le local actuel, qu'on puisse toujours avoir un lieu d'accueil chouette, correct, etc. Pour le moment, on tient le coup. On tient le coup parce que il y a une bonne base de travail qui est là déjà depuis plusieurs années. Moi, j'y suis depuis 4 ans et demi, mais cette Maison des Femmes, elle existait avant. Elle a une équipe de salariés qui est quand même professionnelle, hein, j'ai envie de dire. Elle est professionnelle, l'équipe de salariés, plus un conseil d'administration qui est très investi. Voilà, donc du coup, pourvu qu'on puisse continuer à travailler. Bien sûr qu'il faudrait des moyens supplémentaires. Toujours, il faudrait créer d'autres lieux d'accueil. Des lieux d'accueil en plus.
Donc tu me dis que les femmes qui se rendent à la Maison des Femmes, le nombre a augmenté, mais que la masse salariale est restée la même. Comment est-ce que vous arrivez à tenir bon ? Et comment est-ce que tu expliques aussi cette augmentation de la violence, peut-être, et de femmes qui se rendent à la Maison des Femmes ?
Alors, la masse salariale a augmenté ces dernières années, là. Avant, elles étaient très peu, hein. Il y avait un salaire, je crois, une salariée et demie, 2 salariés... maximum, et là on est quand même 4 sur 2 35 heures et 2 30 heures. Donc du coup, il y a eu vraiment une évolution dans ce sens, justement d'avoir plus de salariés, parce qu'il y avait plus d'accueil. Surtout, alors les violences, malheureusement, je ne peux pas parler à la place de mes collègues qui font l'accueil violence, mais ça ne s'arrête pas. Il y a toujours autant de violences faites aux femmes. Pour notre partie à nous, Marion et moi, sur les accueils, comme on appelle ça un peu tout terrain, eh ben, le problème des femmes qui sont très précaires, de plus en plus de personnes en précarité, des femmes qui arrivent de pays étrangers et qui arrivent ici qui n'ont rien, et de plus en plus qui n'ont rien et qui viennent pour travailler, et c'est le parcours du combattant. Bon, ça c'est tout le travail qui a été fait avec toi Léa, et justement d'où l'intérêt de ces portraits de femmes, parce qu'il y avait tous les paramètres. On a des femmes qui viennent régulièrement à la Maison des Femmes et qui nous racontent leur histoire. Toi, tu étais à la Clé des Ondes, donc et féministe, et du coup, on trouvait ça intéressant de qu'on montre quelque chose, ce que tu as fait en non mixité, puisque tu étais là, parce qu'on adore la Clé des Ondes. Les garçons sont super, mais c'est la non mixité qui prime. Voilà.
Eh bien, on va écouter un extrait du coup de ce projet qui s'est fait en collaboration un petit peu avec la Maison des Femmes et la Clé des Ondes, et on parlera ensuite de comment ça s'est passé pour vous au Pays Isabelle. Femmes d'ici et d'ailleurs est une symphonie de portraits audio née du cœur battant de la Maison des Femmes de Bordeaux. Des femmes qui dévoilent les douleurs et les colères qui les habitent, mais aussi les rêves et le courage qui les animent. Un projet où la parole est donnée à celles que l'on n'entend pas, une archive vivante de celles qui ont traversé la Maison des Femmes, et un hommage au rôle vital du secteur associatif dans leur parcours. Un plongeon dans ces histoires intimes, où chaque voix porte l'écho d'une vie riche et complexe, tissée de résilience et d'espoir.
En fait, je suis quitté dans mon pays, ça fait presque 10 ans maintenant. J'ai fait la Mauritanie, le Maroc, en Espagne et maintenant en France ici. En fait, la situation de nos pays nous oblige des fois à quitter notre pays parce que souvent les femmes sont persécutées là-bas. Les femmes sont soit ils sont obligés de faire l'excision, ou bien il y a d'autres femmes aussi qui sont obligées de protéger leurs enfants, filles, pour fuir avec, pour venir en Europe, pour les protéger de l'excision. Et souvent, avec le mariage forcé, on n'a pas trop le choix de rester en famille. On est obligé de quitter notre pays parce que on sait que tant qu'on vivra dans notre pays, on va nous retrouver. Donc, le mariage forcé, c'est une réalité chez nous qui existe bien.
Je suis venue pour l'harcèlement de mon fils. Il était dans une école française. Il était très harcelé parce qu'il avait une maladie qui était très grave. Il a fait 4 opérations.
Et ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je suis ici en France. Et je suis là pour les soins médicaux. Je suis venue pour les soins médicaux et du coup, je continue. Et c'est pour cela que je suis encore là.
Et j'ai demandé un titre de séjour et on m'a dit non, on ne pourrait pas directement me répondre à ça. Il fallait que je passe directement à la demande d'asile et tout. Et je suis allée à la préfecture et j'ai fait la demande d'asile depuis 2020.
Parce que la devise, quand tu lis la devise, c'est autre chose qu'on pratique. Liberté, il n'y a pas de liberté. Parce que si tu n'es pas en règle, tu ne peux pas être libre. Égalité, il n'y a pas d'égalité. Parce que s'il y avait l'égalité, on ne serait pas en train de se plaindre. La suite, c'est fraternité. Il n'y a pas de fraternité. Donc, la fraternité, c'est pour eux, pas pour tout le monde. Surtout nous, les immigrés, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas des personnes.
Pour faire les femmes, nous, on a quitté de notre pays parce qu'on est persécuté là-bas. Mais quand on vient ici, on reçoit plus que la persécution. Plus que ça. Puisque, au fait, quand l'enfant a 3 ans, il y a d'autres mamans qui sont obligées de faire un autre enfant pour qu'il soit toujours, pour pouvoir avoir toujours le toit. Ça veut dire sacrifice du corps. C'est ce qu'on subit ici, on fait ici en France, nous les femmes. Les femmes font les sacrifices du corps ici. Donc c'est un pays comme la France, c'est vraiment pas bon pour l'image de la France. C'est ce que j'aimerais dire. Ça me met que dans ce monde, vraiment, il y a vraiment de l'injustice. Il y a vraiment de l'injustice. Parce que, au fait, tous les pays qui se disent droit de l'homme, est-ce que vraiment, la question que je me pose, est-ce que le droit de l'homme, là, ça existe vraiment? Je ne crois pas. Parce que si le droit de l'homme existe, on ne peut pas empêcher une mère de travailler et de nourrir ses enfants. Si le droit de l'homme existe, on ne peut pas empêcher une femme d'avoir le papier de nourrir ou bien d'avoir un toit pour ses enfants. Si le droit de l'homme existe vraiment, on ne peut pas seulement couper de vivre à une personne. Parce que ça, c'est vraiment de couper de vivre à une personne et de le laisser à sa souffrance, que ça ne regarde personne.
Même la rue, j'ai dormi 20 jours dans la rue. Mon fils, il a été opéré pour les testicules. À l'hôpital, ils l'ont fait sortir à 9 heures du soir. À l'hôpital Saint-Augustin. Ils l'ont fait sortir à 9 heures du soir. De 9 heures du soir, je les ai suppliés. On n'a pas où habiter. On n'est que dans la rue. Ils m'ont dit, madame, on ne peut pas. On est sorti à 9 heures du soir dans la rue. Le lendemain, l'infirmier, quand il est venu, l'infirmier, il a pleuré quand il nous a vus dans la rue. Il m'a dit, madame, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'infirmier, le pauvre, qui nous a ramenés chez lui pour faire les soins à mon fils. Il m'a dit, je ne peux pas lui faire les soins ici dans la rue. Je vais vous emmener chez vous. On est resté 20 jours chez l'infirmier. Il m'a donné sa clé. Il m'a dit, madame, vous partez chez moi le matin. Comme ça, vous êtes à l'abri toute la journée. Moi, je ne suis pas à la maison. Et le soir, je viens, je fais le soin aux petits et je vous emmène où je vous ai trouvé la première fois. Chaque jour, jusqu'à quand on a fini les 20 jours. C'était très difficile. Moi, j'ai jamais été dans la rue. Moi, je trouvais les gens dans la rue, je les fais rentrer chez moi. Comme au moins un jour, je tombe dans la rue. J'ai jamais souhaité ou jamais je souhaite à n'importe qui d'être dans la rue. La rue, elle est très difficile. Elle est inhabitable, la rue. C'est vraiment la catastrophe. Et surtout quand on est une femme, il y a les clochards, il y a de tout. Tu peux voir de tout. Moi, je ne dors pas la nuit. Je fais dormir mon fils. Il était encore petit, je le mets sur mes pieds. Il dort et moi, je suis réveillée parce que j'ai peur. J'ai mon téléphone, j'ai mon passeport avec moi, j'ai mes papiers avec moi. Si jamais ils me volent, d'où je vais ramener mes papiers? Je ne pourrais pas ramener mes papiers.
Voilà, donc on vient d'entendre une compilation de plusieurs extraits de portraits audio de femmes qui sont à retrouver sur notre site internet. Donc Isabelle, c'est toi qui es à l'initiative de ce projet quand même. Qu'est-ce que tu voulais... C'était quoi l'ambition un petit peu de ce projet? Pourquoi il existe?
Alors, comme je disais, il y avait tous les paramètres. La clé des ondes, on se connaît bien. Bon, toi, tu étais là aussi, jeune journaliste et tout, et féministe. Donc, il y avait tout. Et nous, déjà, on a été très choqués par la loi immigration. Mais même avant ça, on parlait avec nos collègues. On parle quand même avec nos collègues et tout. Et toutes les femmes qui viennent, on voit bien que les difficultés, en fait, quand elles arrivent un petit peu à sortir de la tête de l'eau, ben tout d'un coup il y a un truc qui arrive et paf, elles repartent au point zéro. Et dans l'exemple d'une femme aussi qui avait des papiers, qui a eu un parcours extrêmement difficile, elles ont toutes des parcours difficiles, attention hein, je ne fais pas d'échelle de douleur là-dessus, mais et on s'est dit, bon, faut que ces paroles de femmes, faut qu'elles soient entendues, parce que on les entend jamais en fait. On les entend jamais. Nous, elles viennent, c'est un lieu d'accueil, d'écoute, elles peuvent se poser. Mais il y a plein de personnes ne savent pas ce qu'elles vivent, en fait. C'est ce qu'on s'est dit. Et ce qui a été un peu déclencheur aussi, ça a été aussi des situations de femmes qu'on a depuis 4 ans et demi. Parce que moi, je suis salariée depuis 4 ans et demi à la Maison des Femmes, mais les choses, elles existaient bien évidemment avant. Mais depuis 4 ans et demi, il y a un noyau de femmes qu'on suit. Et qu'on a vu que leur situation, en fait, elles font un pas en avant et après, c'est 10 pas en arrière. Notamment celle qui se nomme Sarah, vous écouterez les podcasts. Sarah, c'est quelqu'un, sa situation s'était drôlement arrangée, enfin drôlement. Elle avait réussi à avoir des papiers, avoir un emploi, avoir une colocation avec des systèmes avec des associations, hein, etc. Et du jour au lendemain, plus de papiers. Parce que ça n'a pas été renouvelé par la préfecture, parce qu'il y a le nouveau formulaire qui arrive, parce qu'il y a toujours quelque chose, hein, le ci, le là. Résultat, ben, où elle travaillait, ils l'ont licenciée. Plus de papier, la licencie. C'est une femme qui a 52 ans, parce qu'en plus, c'est ça qu'il faut voir, il y a des jeunes, mais il y a des femmes aussi qui ont plus de 50 ans, beaucoup, qui arrivent pour travailler en France. Et du coup, elle repart au point zéro, et elle est partie. Elle a tout quitté, elle est partie pour tenter sa chance dans un autre pays. Ça, c'est... Je suis désolée de le dire, je pense à elle tous les jours. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. C'est quelqu'un qui avait des problèmes de santé, qui était extrêmement bien prise en charge en France. Parce qu'il y a encore des choses très chouettes en France, pas assez, mais des associations extraordinaires. Et voilà, et du coup, je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'elle est devenue.
Et tu te sens, enfin, vous vous sentez aussi peut-être impuissante face à ce système qui l'a poussée à partir finalement, puisque tu dis que c'était des problèmes de papier, la préfecture qui ne délivrait pas.
Oui, c'est ça. On est à un moment donné, on a pris une très grosse claque par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, et notamment là, tout récemment, bien évidemment, avec les élections. Ça pose vraiment question parce que il y a une telle haine dans ce pays face aux étrangers de la part de certaines personnes, mais je dis, c'est pas possible, ils savent pas comment elles vivent. Elles, nous, en l'occurrence, aujourd'hui, on parle de femmes, mais c'est pareil pour les mineurs isolés, etc., pour tous les étrangers, pour beaucoup d'étrangers. Mais on est impuissants, oui, puisque ça, nous, ce qui nous manque vraiment, c'est les papiers et les logements. Voilà, les deux points cruciaux, c'est qu'il faut des papiers et il faut des logements pour qu'elles puissent se poser. Après, c'est des femmes, ça roule. Je suis désolée de le dire, ça roule. Elles sont... Il y en a une qui le dit, une autre dans un... C'est des guerrières. une fois qu'elles sont posées, elles avancent. Elles ont envie d'avoir un petit truc où, tranquille, et elles vont travailler. Elles ont des contrats, faut le savoir, quand elles travaillent, des contrats, mais elles ont, pour des 26 heures, elles font des semaines de 50 heures. Elles se trimballent dans les trams, dans les bus pour aller travailler, ménage, auxiliaire de vie. Enfin, en fait, elles sont dans tous les boulots sous tension. Demain, s'il y a un truc qui se passe dans ce pays et que si on fait partir tous les étrangers, je vous dis franchement, il n'y a plus personne pour bosser dans plein de domaines d'activité. Hein.
On va en parler après des problématiques de travail et de comment est-ce que vous pouvez les accompagner. Toi, Hop, du coup, tu as participé aussi à ce projet et donc on peut écouter ton épisode sur notre site. Comment ça s'est passé pour toi?
Pour moi, ça s'est bien passé. Et en tant qu'étudiante, j'espère que mon titre de séjour va être renouvelé, que je pourrai suivre mes études et surtout avoir un boulot à la fin.
Parce que donc là, toi, actuellement, tu es en master, donc tu as un visa étudiant. Oui. Et là, pour rester sur le territoire, du coup, ce serait quoi les démarches à faire pour toi?
Pour moi, les démarches, ce serait d'avoir au moins 615 euros par mois, parce que, de salaire plutôt, ou d'avoir un garant. Bon, comme je suis venue par moi-même, et je dois tout faire toute seule, travailler et aller au cours. Donc, je ne peux compter que sur moi-même. Et j'espère, parce que les derniers mois, j'ai réduit mes heures de boulot pour pouvoir plus me concentrer sur ma mémoire. Et je n'ai pas forcément les 615 euros par mois. Et j'espère que même avec ça, le titre de séjour pourrait être renouvelé.
Et tu arrives à te débrouiller? Comment est-ce que tu arrives à mener tes études et le travail en même temps?
Si, j'arrive. Parce que c'est en fonction de mes plannings. Je donne mon emploi du temps à l'agence qui m'embauche et en fonction de ça, ils me font les plannings de la semaine. Et quand j'ai des activités à l'université, je leur dis que bon, telle date, je ne suis pas disponible.
Donc pour revenir un petit peu sur le projet de radio de Femmes d'ici et d'ailleurs, c'était que des femmes qui étaient volontaires et donc toi, tu étais volontaire, Hope. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de participer à ça?
J'ai eu envie de participer à ça parce que je n'ai pas toujours eu la parole. Je viens d'une famille où c'était abusif. Je ne devais jamais m'exprimer. Mes sentiments n'étaient pas entendus. Et là, je trouve que c'est une bonne occasion de me faire entendre et de partager avec les autres ce qui se passe dans ma vie et ce que je ressens.
Donc, de reprendre un peu du pouvoir aussi sur ton histoire, ton vécu et ce qui t'appartient. Oui. Est-ce que c'était aussi ça, un peu, de faire entendre toi, ta réalité d'étudiante qui galère, qui vient d'un autre pays, pour raconter ta réalité avec tes mots et qu'on arrête aussi d'avoir un imaginaire sur ça, peut-être?
Oui.
Et donc, on a fait une restitution aussi collective, là, au mois de juin, où on a entendu plusieurs témoignages de femmes. On a pu entendre ça sur La Clé des Ondes et à la Maison des Femmes, également, lors d'un atelier. Toi, Hope, qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre tous ces témoignages assez intimes, assez profonds de femmes de la Maison des Femmes?
Ça m'a beaucoup touchée parce que forcément, on est ensemble à la Maison des Femmes. On ne sait pas ce que les unes et les autres ont vécu. Parce que souvent, elles discutent, elles nous disent ce qu'elles ont vécu, mais pas tout. Avec les interviews, on a pu entendre d'autres choses. Et c'était vraiment choquant. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Parce qu'on a toutes des parcours différents. Et voilà, c'était vraiment plein d'émotions.
Donc on va continuer maintenant en parlant un petit peu de l'actualité politique quand même qui touche tout le monde là et des répercussions de celle-ci. On assiste actuellement à une percée fulgurante de l'extrême droite en France. Après les européennes, le premier tour des législatives a comptabilisé plus de 10 millions de voix pour les partis d'extrême droite. C'est plus du double qu'en 2022. Et ces chiffres, ils reflètent une montée du racisme et de la xénophobie en France, de plus en plus décomplexée. prenant comme bouc émissaire de tous les problèmes de la société les personnes immigrées, les personnes racisées, les binationaux, les personnes issues de l'immigration, la communauté musulmane, et j'en passe. Isabelle, toi, comment est-ce que tu vis cette situation en tant que femme militante du monde associatif ?
Alors, on a beau dire qu'on l'a vu arriver, moi, personnellement, à ce point-là, je dis non. On savait qu'il y avait une montée de l'extrême droite en France énorme. On voit bien quand même que... oui, il y a des difficultés. Puis la politique qui a été mise en place avant, de toute façon, a amené tout ça. Les médias ont joué un rôle important. C'est même, ils leur ont déballé le tapis rouge au RN. Comment on vit ça, tu veux dire ? Comment on va le vivre ? Je ne sais pas. Dimanche, ça va être quand même décisif. On va continuer, hein. De toute façon, on continuera. Moi, je continuerai à travailler, je continuerai à me battre pour... J'ai fait un travail, c'est un... Moi, mon boulot, c'est quand même une passion. Enfin, c'est des métiers passion qu'on fait, hein. Quand on a fait de l'accompagnement, vous savez, c'est vraiment... parce qu'on est avec les gens, quand même, quoi, avec les personnes. Moi, je suis beaucoup plus... Bien sûr, premier truc, je suis inquiète avant tout pour toutes ces personnes. Et bien sûr, je pense aux femmes qu'on accompagne, mais plein de personnes dans mon quartier, tous les gens issus de l'immigration, toutes ces personnes qui vont être touchées en plein cœur tout de suite, quoi. Les sans-papiers, bien évidemment. Déjà, c'était très compliqué, ça devenait de plus en plus compliqué d'avoir les papiers pour les personnes. Mais là, c'est... Non, c'est pas possible, faut pas que ça passe. C'est no pasaran. Mmh. Faut pas que ça passe.
On espère. Et toi, Hope, comment est-ce que tu le vis, là, ce moment, avec cette montée de l'extrême droite ?
Moi, ça m'inquiète beaucoup. Je n'arrive plus à dormir. Et même quand je fais des activités, j'y pense tout le temps et ça m'inquiète beaucoup.
Et à quoi tu penses en particulier ? Est-ce que tu as des peurs ?
Bon, la peur est que on me dit de repartir chez moi. Même si je continue à me battre, c'est parce que je suis venue pour les études et je travaille. Et j'ai envie de réussir et de m'intégrer dans la société française. Et en venant ici, j'ai fui des persécutions dans mon pays. Et je n'aimerais pas repartir comme ça sans être diplômée ou m'intégrer ici. Voilà, c'est ça ma peur.
Donc il y a quelque chose qui revient beaucoup dans les témoignages de femmes, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, Isabelle, c'est leur très difficile accès à l'emploi, un emploi qui leur permettrait de s'en sortir. Et donc ce qui ressort beaucoup, c'est que toutes les femmes interrogées ont la ferme volonté de travailler, mais on les en empêche et on les met ainsi dans des situations économiques très précaires. On écoute un extrait tout de suite.
On nous a demandé qu'il faut travailler pour être comment dirais-je, pour être bien intégré dans ce pays. Mais nous, on travaille, on ne voit pas ce qu'on fait. On nous avait dit, si il faut avoir un titre, il faut travailler. Moi, je n'ai jamais bénéficié des aides de l'État, mais je continue à me débrouiller. Donc, si au moins on pouvait penser à nous qui travaillons, qui faisons ce que nous faisons pour nous octroyer vraiment ce papier.
Oh, c'est pas facile de trouver du travail à Bordeaux ici avec un réceptifié. Ils vont pas t'accorder le travail avec un réceptifié.
On n'est pas accepté partout. Des fois, on va quelque part, je ne sais pas, une parenthèse. J'ai fait une formation et chaque deux semaines, il fallait faire des stages. À mon âge, c'est vrai, et à mon état de santé, je suis allé demander un stage. Il y a un jeune qui m'a accueilli, il m'a dit « Oui, pas de problème. » J'ai rempli le feuille de contrat. « Ok, c'est bon. » Et le jour où je suis allé, le jeune homme qui m'a reçu, déjà me voir, il n'était pas si gentil. Mais comme je devrais faire le stage, j'ai commencé. Mais la responsable, quand elle est venue, elle m'a vu, elle m'a demandé. Moi, j'ai dit « Non, je suis venu en stage. » Et il est allé avec le garçon. Je les ai écoutés. Il a dit, mais c'est la dame de couleur. C'est ça le terme qu'elle a utilisé. C'est la dame de couleur qui va faire le stage. Ah non, 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 non. Elle a carrément refusé. J'en ai fait deux. Au lieu de 15 jours, je fais deux jours. Ce que j'ai compris, elle n'a pas accepté. Elle ne m'a pas accepté parce que je suis noire. Tu vois, on rencontre des choses comme ça.
Je comprends pas un pays comme la France, qu'on dit que la France est un pays de l'égalité, fraternité, liberté. Pour nous, les femmes africaines, on ne voit pas l'égalité ici. On ne voit pas la fraternité ni la liberté. Parce qu'au fait, nous, on vient ici, on n'a pas de parents. On n'a personne à qui compter. Maintenant, si on nous... Le seul truc qu'on peut se débrouiller pour s'en sortir de la vie, c'est le papier et de pouvoir travailler. Maintenant, si on nous enlève ce droit-là, il n'y a pas deux options. Il y a beaucoup de femmes qui font la prostitution, c'est grâce à ça. Parce que si tu n'as pas les moyens de te nourrir, tu ne vas pas te laisser mourir de faim, tu seras obligé de faire quelque chose. Il faut avoir un mental très fort pour ne pas tomber dans ça. Moi, par exemple, Dieu merci, j'ai connu Isabelle quand je suis rentrée ici en France, qui travaille à la Maison des Femmes. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup montré des associations. Par rapport à ça, je peux trouver des tickets service pour manger. La mairie de Mérignac aussi, des fois, ils me donnent des tickets service. Donc, c'est ça qui nous permet de manger ici. Sinon, vraiment, c'est la galère. C'est la galère.
Donc, on vient d'entendre, pareil, une compilation de plusieurs témoignages de femmes. On vient d'entendre des témoignages de discrimination à l'embauche, de plein de choses, de boulot précaire. Comment, à la Maison des Femmes, est-ce que vous les accompagnez, ces femmes, quel levier vous avez pour les accompagner dans ces problématiques professionnelles ?
Bon, déjà, je trouve quand même les témoignages ultra bouleversants. Je les ai écoutés, t'es venu vendredi, on a fait un atelier autour de ces... C'est bouleversant, parce que c'est... on s'y habitue pas, hein, ces situations. Comment on les accompagne ? Alors, nous, on n'est pas une agence pour l'emploi, hein, bien sûr, mais on peut essayer de travailler avec des petits organismes d'insertion. Il y a insertion aussi. Le problème, c'est toujours les papiers. Si elles n'ont pas de papiers, elles peuvent rien faire. Donc, ce qu'on essaye de voir, pour qu'elles puissent accéder à l'emploi, parce qu'on pourrait en parler, on pourrait aller sur plusieurs terrains. En tout cas, l'urgence là, c'est les promesses d'embauche. Il faut qu'on trouve aujourd'hui des personnes qui sont prêtes à s'engager pour elles. Des promesses d'embauche. On peut faire des petits contrats aux personnes.
Des promesses d'embauche, du coup, qui permettraient de débloquer des situations administratives.
Oui, qui pourraient débloquer. Alors, c'est pas gagné, mais il faut vraiment faut une mobilisation des employeurs aussi pour les sans-papiers.
Qui leur permettrait d'avoir un titre de travail,
bien
de
séjour
de travail, par exemple.
Oui, bien sûr. Alors, c'est complexe, hein, les papiers, parce que chaque situation est particulière, bien évidemment. Mais pour elles ont besoin de travailler... Il faut des papiers. Avec les récépissés, je pense qu'elles peuvent... on peut. Enfin, c'est compliqué. Mais il faut qu'elles aient un titre de séjour au moins d'un an, on arrive à enclencher quelque chose, etc. Donc, promesse d'embauche, même si elles n'ont pas encore les papiers, mais promesse d'embauche. Je ne sais pas comment on va faire, là. Il va falloir qu'on monte au créneau, plusieurs assos. Mais il faut qu'on trouve des employeurs. Tout le monde a besoin de... y a plein de personnes qui ont besoin de personnel. Et ça, et après, on peut aussi... pour de la qualification, pour de la formation. Mais franchement, c'est le problème des papiers. C'est faut trouver des employeurs qui sont prêts à jouer le jeu avec les femmes là, qu'on a actuellement. Et il y en a, je sais, qui sont solidaires. Là, on fait un appel à la solidarité aujourd'hui. Mais vraiment, parce qu'elles resteront sur le territoire français. Il y a des femmes, il faut que les gens sachent, elles ne peuvent plus repartir dans leur pays d'origine. Ce n'est plus possible pour elles. Donc, nous allons les garder ici avec nous. Voilà, elles vont vivre avec nous. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Voilà, donc l'accompagnement, après, on fait plein d'autres trucs. Mais le truc crucial, c'est vraiment, oui, l'emploi et le logement, hein, comme je te disais.
Toi, Hob, donc tu disais qu'en parallèle de tes études, tu avais aussi un petit boulot. Je crois que dans ton épisode, tu disais que tu travailles dans une société de nettoyage, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc ça fait partie des métiers en tension, par exemple, des secteurs où on trouve peu de candidats ou de candidates pour travailler, parce que généralement, c'est des boulots assez pénibles, mal payés. Comment ça se passe pour toi ?
Pour moi, ça dépend des intervenants. Des interventions plutôt, parce que j'ai des personnes qui sont bienveillantes et d'autres pas du tout. J'ai même reçu des coups en travaillant chez une dame. Elle m'a tapé parce que dessus avec sa canne parce que je n'arrivais pas à bien placer son rideau. Et bon, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça met un coup quand même parce qu'on a envie de travailler, de bien faire son boulot et de juste repartir à la maison sans chercher de problème. Mais il y a d'autres qui nous poussent à bout quand même. Mais bon, avec ma personnalité, j'arrive toujours à rester calme et quand il y a des soucis, je remonte ça à l'agence qui m'emploie.
Et est-ce que du coup, l'agence qui t'emploie, est-ce qu'il y a eu des répercussions à ça? Est-ce qu'ils ont pris position pour toi? Est-ce qu'ils t'ont aidé?
Oui, ils m'ont beaucoup aidé. C'est une agence, ils sont très à l'écoute et ils nous protègent vraiment et ça se passe bien avec eux.
Donc on en parlait aussi, Isabelle, une autre problématique fondamentale pour les femmes qui traversent la Maison des Femmes, c'est la régularisation administrative sur le territoire, qui est aussi à mettre en lien avec les prestations sociales. C'est très compliqué, notamment à Bordeaux, où la préfecture délivre peu de titres de séjour d'en obtenir un. Et donc, un des préjugés très présents à l'extrême droite, ce serait de dire qu'on donne tout aux personnes étrangères et pas aux Français, notamment concernant les allocations sociales, ce qui est évidemment éminemment faux. On sait notamment qu'un grand nombre d'allocations sociales sont inaccessibles aux personnes sans papier. Et pour les personnes régularisées qui travaillent, elles paient leurs impôts et cotisent comme tout le monde. Philippe Bataille, sociologue, concernant l'accès aux prestations sociales pour les personnes immigrées, dit qu'il y a même une sous-consommation d'aides sociales due au fait que le parcours pour les obtenir est plus compliqué. Il ajoute qu'il y a plus de malversations à l'égard de la sécurité sociale qui vient du camp patronal que des immigrés. En 2019, la fraude aux prestations sociales de la CAF a été estimée à 2,3 milliards d'euros. La fraude fiscale, quant à elle, est estimée à entre 80 et 100 milliards d'euros. Donc, presque que 80 milliards de différence, pardon. Et rappelons également que ce chiffre de fraude aux prestations sociales, il concerne toute la population sur le territoire. Isabelle, concrètement, une femme immigrée sans papier, à quelle aide sociale elle peut prétendre quand elle arrive ici en France?
À rien. Donc du coup, le parcours du combattant, moi vous savez, je crois que le premier mois que j'ai travaillé à la Maison des femmes arrivent sans rien, des femmes migrantes. Donc notre premier truc, c'est déjà le soin, savoir si elles sont mises à l'abri. Parce qu'une femme à la rue, c'est catastrophique pour les hommes aussi, hein, mais une femme à la rue, 100% elle est victime systématiquement de violence. Donc ça c'est, voilà, donc c'est quand même, nous, on est une maison des femmes, donc ça c'est à prendre en compte. Donc elles sont, donc le premier truc c'est les mettre à l'abri, et voir pour les soins, c'est Médecins du Monde. Médecins du Monde, équipe extraordinaire. Et les mettre à l'abri, pour les mettre à l'abri. Si on n'a pas... alors aujourd'hui, ça devient encore plus compliqué. C'est soit on peut les mettre à l'abri avec... bon, des fois, il y a quand même... bien sûr, il y a le 115, mais qui est saturé, évidemment, parce qu'il n'y a pas de nouveaux foyers qui ont ouvert et tout. De plus en plus de personnes à la rue, je crois. Enfin, il y a eu un recensement là dernièrement, mais à un moment donné, on parlait de plus de 2000 personnes à la rue à Bordeaux. On a la Fondation Abbé Pierre, avec laquelle on travaille énormément. Pareil, alors je vais encenser des choses, mais... c'est pas des grosses équipes en plus, mais des équipes qui font un boulot de dingue. La Fondation Abbé Pierre, donc on a pu avoir quand même un peu de mise à l'abri avec eux, mais ça dure qu'un temps. Hein. Ils ont pas, c'est pas éternel. Voilà, et on se replie sur des squats. C'est-à-dire que moi, la première personne que j'ai mise à l'abri à Bordeaux, c'est parce que je suis militante aussi par ailleurs, qu'on fait des maraudes et qu'on fait des ci, des là. J'ai appelé le collectif Bienvenue avec Bernie qui a fait un travail, en l'occurrence elle et puis d'autres à Bordeaux, mais tout de suite elle m'a trouvé une solution pour une femme pour qu'elle soit mise à l'abri dans un squat de femmes, parce qu'on fait attention à ça aussi, bien évidemment. Non, il y a zéro solution. Alors après, quand elles commencent à. Voilà, si on peut les suivre et qu'elles ont un petit peu de papier et tout ça, ça va. Mais le premier truc, c'est la mise à l'abri. Mmh. Il y a l'association Tout à l'abri, c'est un accueil de jour. Elles ont pas. Je crois que maintenant il y a quelques appartements, très peu avec. Elles travaillent avec la Fondation Abbé Pierre, mais non, mais c'est très limité, hein, quand même notre mode d'action, quoi.
Mais donc, une personne immigrée qui arrive sur le territoire n'a le droit à aucune aide sociale, nada, quoi.
À part si elle va donc au CADA, pour si elle est demandeuse d'asile, là, etc. Mais le temps que ça soit reconnu, et ça dure qu'un temps, après c'est l'OFPRA, après c'est tout un parcours. Et si elle est pas, si l'asile n'est pas reconnu, ben elle se retrouve au point zéro. Donc là, ils ont une toute petite aide, ils sont mis dans des CADA, ils ont une petite aide.
Oui, qui est minime.
Qui est minime. Donc si c'est ça que le RN a comme argument, ça va pas le faire, parce que c'est dérisoire. Après, la majorité des personnes sont en extrême galère.
Et donc, malgré ces galères, il y a quand même quelque chose qui ressort aussi énormément de ces entretiens. C'est que toutes ces femmes, elles ne lâchent rien et elles tiennent bon, malgré toutes les difficultés. Comment, toi, tu arrives à trouver la force? Qu'est-ce qui te motive?
Ce qui me motive, c'est l'envie de réussir, parce que je me dis ma vie n'a pas été facile. Bon, je ne dirais pas que j'ai l'habitude, mais ça m'a forgée et ça me donne envie de me donner plus et de réussir. Tant que c'est pas encore fini, il y a de l'espoir. Bon, c'est ce que je me dis et je continue de me battre.
Et donc, tu nous parles aussi dans ton épisode d'un beau projet qui est à mettre en lien avec la Maison des Femmes. Est-ce que tu peux nous en parler?
Et le projet que j'ai en tête, c'est d'ouvrir un centre d'écoute dans mon pays d'origine, qui est le Burkina Faso, parce que là-bas, les femmes ne sont pas beaucoup entendues. Et il y a beaucoup de violence qui est un peu légalisée, parce que les gens ont tendance à faire comme si c'était normal. Et il y a d'autres femmes même qui subissent ça et elles ne savent pas que ce n'est pas normal. Donc j'aimerais bien avoir un centre là-bas et accueillir des femmes qui sont dans le besoin. Et il y a le problème de l'excision, du mariage forcé. Et il y a d'autres aussi, c'est pas le mariage forcé, mais c'est les mariages de convention. On peut essayer de jouer sur ta sensibilité pour t'obliger à te marier avec quelqu'un. Et tout ça, c'est des causes qui me touchent et j'aimerais bien travailler dans ça.
Un très beau projet. Je te souhaite de la réussite.
Merci.
Isabelle, est-ce qu'il y a d'autres projets en préparation aussi à la Maison des Femmes? Tu voulais lancer un appel aussi peut-être?
Oui. Bah, nous, alors du coup, on va prendre quelques congés là, au mois d'août, mais on va repartir les projets. Ce projet-là, il va continuer. C'est-à-dire ces 9 portraits, on va peut-être pouvoir les illustrer, en faire une expo, on va voir, voilà. C'est porter cette parole des femmes qu'on n'entend jamais. Ça, on va continuer. Les accompagner du mieux qu'on peut, se battre pour que ce système y change. Et elles nous donnent la force, ces femmes. Moi, je vous le dis franchement, c'est vrai que ce sont des guerrières. Il y a quelqu'un qui emploie ce terme dans les témoignages. Ce sont des guerrières, oui, véritablement. Alors, avec bien sûr des fois des coups de découragement, etc. Mais elles sont toujours là. Vous vous rendez compte ce qu'elles subissent, quoi, psychologiquement aussi. Hein. C'est des femmes qui ont vraiment vécu des choses et physiques et psychologiques. Mais aujourd'hui, c'est incroyable. Elles ont une force, mais on peut en prendre exemple. Hein. Et ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, si on peut lancer un appel, c'est des promesses d'embauche. Alors, on peut aller sur le site de la Maison des Femmes. Il y a une adresse mail. Si vous nous entendez, s'il y a des employeurs, des gens aussi qui auraient des colloques, qui pourraient héberger des personnes, des femmes ponctuellement même, hein, qui auraient besoin pour cet été de personnes pour les aider sur leurs vacances avec la garde d'enfants, etc. Tout est bon à prendre. On a besoin de promesses d'embauche, de logement, qu'elles prennent aussi des vacances, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? De dons si vous avez, parce qu'il y a des femmes, elles n'ont aucun revenu, elles arrivent, elles n'ont aucun revenu, elles n'ont absolument rien, donc s'il y a des dons, nous bien sûr on s'engagera dans le studio à côté de moi qui ne veut pas prendre la parole, nous avons notre présidente, donc nous sommes une association où tout est très clair sur le plan financier. Si des personnes nous font des dons, ils seront bien sûr entrés et reversés à des personnes. Ça on peut peut-être s'engager à ça un petit peu aujourd'hui. On ne le faisait pas, mais là, on est dans une situation extrême.
Et voilà. Donc, on pourra contacter du coup la Maison des Femmes de Bordeaux pour faire ses dons. Je vous remercie à toutes les deux. Merci Isabelle de la Maison des Femmes et merci Hope aussi de la Maison des Femmes. Bonne journée à vous.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Uya te jeli na gam fele Bambo tata de Fatinya me na gam fele Antunya jeli ya jugu ya ma fentinye ne Mandengara luyo Sutebo mani dongo che Jeli atora nyogoni nimima
Parmi nos autres programmes de la journée, à 18h, Le chemin des transitions qui s'intéresse aux obsèques du futur avec l'humusation. À 19h, ce sera Climat de lutte. À 20h, Yassas. 21h, le Jazz Athletic Club. Et 22h, de Corazon à Corazon. Et tout de suite, il est 13h, c'est la rediffusion de l'émission d'hier avec l'AG Féministe. L'émission d'Acétone.
Thomas parle que c'est la crédit qu'il fait, il paye, qui loge, qui la déshabille. C'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que le trembleur ont dit depuis. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
Le
boulet damné de la terre, aide de boulet forçat de la faim. La raison tenant son cratère, c'est l'éruption de la faim. C'est l'éruption de la faim.